patriarcat nous donne du chocolat, ça finit dans la cuvette, bah voilà.
J'en ai marre de faire la fête dans ce monde de chiens. Je prends un cachet pour la tête pour faire du bien.
Et je voir dehors, il y a tout le monde en noir, c'est la mode à Paris, bande de poires. Il y avait des instants de liberté où on a fait que se baffrer. Et je t'enchaîne par des mots libertins. Tu veux quoi que je t'appelle mon coquin? Liberté, pas égalité, reste le troisième et je l'ai zappé. Pacifique, l'image de la rue pas spécifique, à base de couleurs, de mots et d'images. Et oui, certainement, on a la rage.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter la faute.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle.
Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, ah, 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 je suis chômeur, ah, 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 je suis pointé.
Bonjour à tous et toutes, vous êtes bien sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi soir 21 mai 2018.
Et on va parler de différents sujets à l'international. On commence par le droit à l'avortement en Irlande, on suivra avec le mariage princier en Angleterre, puis on parlera de l'alliance entre la Ligue du Nord et le M5S en Italie. Ensuite, au national, on parlera de la polémique autour de Mariam Pouchetou qui continue, des morts en série à Briançon, des cheminots de Paris-Nord, et on fera un petit tour des luttes de cheminots, et de la loi ORE, la loi ORE et des mobilisations étudiantes. Au local, on continuera en faisant un petit compte rendu du rassemblement en solidarité avec Moussa, qui était la semaine dernière, il me semble. Et on enchaînera avec la préfecture du Rhône qui a décrété que les enfants de plus d'un an pouvaient être remis à la rue. Et on aura surtout un beau dossier préparé en direct ce week-end sur un nouveau lieu de vie pour les mineurs étrangers isolés à Lyon. Donc, et c'est moi qui commence finalement.
Mais oui.
Sur 102.2 Radio Canu, la plus rebelle des radios. N'est-ce pas? Avec.
Ok, à toi, ouais.
Laissez-moi faire. Avec le droit à l'avortement en Irlande. Donc, ce 25 mai, il y a un référendum qui est organisé en Irlande pour modifier des amendements de la Constitution, surtout le 8e amendement, qui garantit le droit à la vie de l'embryon en tenant compte du droit égal à la vie de la mère. Donc en fait, ce 8e amendement qui garantit le droit à la vie de l'embryon, c'est un amendement qui rend illégal le droit à l'avortement en Irlande. Et l'enjeu du référendum, ce serait donc de modifier cet amendement pour permettre enfin aux femmes de disposer de leur corps. Puisque actuellement, donc, l'avortement a toujours été illégal en Irlande. Mais son interdiction a été insérée dans la Constitution en 1983, lors d'un autre référendum d'ailleurs. Depuis 2013, l'avortement n'est plus totalement interdit et il est autorisé seulement en cas de danger pour la mère. Donc, c'est-à-dire qu'en cas de viol, d'inceste ou de malformation du fœtus, l'avortement n'est quand même pas autorisé. Et une telle intervention constitue même un crime passible d'une peine de 14 ans de prison. Donc, l'avortement est permis uniquement si la poursuite de la grossesse fait courir à la femme un risque réel et substantiel qui doit être justifié par 2 médecins dans un centre agréé et par 2 psychiatres quand il y a un risque de suicide. Donc, c'est vraiment une des législations les plus restrictives et les plus restrictives sur l'avortement en Europe. Donc d'ailleurs, selon Amnesty International, il y a près de 25 000 Irlandaises qui ont été contraintes de se rendre en Angleterre ou au Pays de Galles pour avorter les 5 dernières années. Comme le voyage coûte de l'argent, ça provoque aussi une discrimination économique entre les femmes. Et il y a plein de femmes du coup qui sont contraintes de passer par Internet, par l'achat de remèdes qui peuvent être parfois franchement dangereux pour provoquer un avortement à domicile. Donc c'est bien sûr des femmes qui sont livrées à elles-mêmes et qui se mettent leur santé en danger. Donc ce référendum du 25 mai, tout ce qui est en jeu, c'est la santé des femmes, la levée de l'interdiction de l'avortement,
le choix libre des femmes et la suppression des 14 ans de prison qui sont encourus par celles qui sont prises en flagrant délit d'avortement. Et à Lyon, il y a un rassemblement de soutien aux Irlandaises qui veulent donc la modification de la Constitution. Donc c'est à 18h, place de la Comédie. Rassemblement en soutien aux féministes irlandaises, parce que le droit à l'avortement en Europe, il faut toujours le défendre et le faire progresser, puisque en France, de fait d'une restriction des moyens accordés aux hôpitaux publics, l'avortement aussi est de plus en plus difficile d'accès.
Et désormais, on va aller de l'autre côté de la mer, donc en Angleterre, au Royaume-Uni, pour parler de l'événement de ce week-end que vous n'avez sûrement pas loupé, le tant attendu mariage princier.
Eh ouais, on en parle sur Radio Canu.
Eh ouais, on en parle sur Radio Canu, c'est ça. Donc le mariage attendu par toutes les grands-mères britanniques et les journaux People, celui entre le prince Harry et l'ex-actrice américaine Meghan Markle. Un mariage placé sous le signe de la culture afro-américaine. Les médias parlaient même de célébration de l'identité noire par la monarchie britannique. Un révérend afro-américain, une chorale gospel, une chanson du mouvement des droits civiques et de nombreux invités afro-américains comme Serena Williams, Idris Elba, Gina Torres ou la célèbre présentatrice américaine Oprah Winfrey. Alors, au-delà des potins et autres infos peu intéressantes, d'ailleurs spéciale dédicace au service public avec près de 405 minutes d'antenne sur France 2 avec Stéphane Bern, brodant sur la robe de la mariée, etc.
Excellent.
Voilà. Donc ici, je ne vais pas me faire le relais de ce genre d'informations, mais plutôt le relais des réactions des militants antiracistes et antinégrophobie qu'on a pu trouver sur la toile. En effet, derrière cette cérémonie se cache en fait une magnifique opération de blackwashing, selon eux, une manière pour la monarchie britannique, qui est incroyablement dans l'histoire, a été incroyablement impliquée dans les crimes coloniaux et esclavagistes, et encore aujourd'hui dans le néocolonialisme, donc une manière de s'acheter une image progressiste. Bref, l'identité noire est instrumentalisée, récupérée pour se parer de la modernité et de la diversité, enfin pour que la monarchie, une monarchie criminelle et impérialiste, puisse se parer de modernité et de diversité, et ceci avec la collaboration zélée de la bourgeoisie noire. Pour les militants donc antiracistes, cette mascarade, elle ne saurait être synonyme de progrès, d'émancipation ou de libération pour les populations noires, mais une forme de récupération libérale, de marchandisation ou d'instrumentalisation pour réduire à une simple diversité leurs histoires, leurs cultures, leurs mémoires et leurs identités. Ils estiment que le progrès pour les Noirs ne saurait se mesurer en dehors de critères objectifs et matériels comme l'accès à la santé, le logement ou la fin des violences policières. Et dans ce contexte de montée générale du racisme et des politiques migratoires de plus en plus racistes, on ne saurait les contredire.
Alors, on revient dans l'Union européenne, puisqu'on va parler de l'Italie. Vous n'avez pas pu passer à côté. Aujourd'hui, c'est donc censé être l'annonce de la nomination d'un nouveau gouvernement, puisque les deux partis victorieux des élections législatives ont réussi à créer une alliance pour constituer ce gouvernement, ce qui était loin d'être gagné, puisque la bourgeoisie technocratique italienne très puissante et le MEDEF italien, la Confindustria, y étaient farouchement opposés et souhaitaient la mise en place d'un gouvernement technocratique non élu, comme ça avait pu être le cas avec Mario Monti entre 2011 et 2013. Mais c'est un échec, puisque la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles se sont mis d'accord et ont proposé aujourd'hui un président du Conseil et un gouvernement au président Mattarella. On reviendra dessus après. Alors, rappel, le mouvement 5 étoiles a fait 32,4% des suffrages à la Chambre des députés, 34% au Sénat pour ces élections législatives, et la Ligue du Nord a fait 34%, donc plus, avec une coalition qui comportait notamment Forza Italia, l'organisation politique d'un certain Silvio Berlusconi. Ils avaient donc aucun des deux de majorité absolue et ils ont dû donc rentrer dans une longue période de tractation pour essayer de sortir un gouvernement. Alors, petit rappel quand même sur ce qu'est le mouvement 5 étoiles. Il a été créé en 2009 par Beppe Grillo, qui est un célèbre humoriste italien, et c'est un mouvement officiellement qui s'affiche anti-élite, anti-corruption, puisque pour rappel, la corruption caractérise quand même 40 ans de vie politique italienne. Et ce mouvement s'est agrégé à partir de 2005 autour du blog de cet humoriste. Très populaire, avec comme point d'orgue le V-Day, ce qui signifie subtilement Vaffanculo, où des rassemblements massifs avaient eu lieu dans toute l'Italie. Alors, les cinq priorités du mouvement 5 étoiles officiel, c'est retour public de la gestion de l'eau, zéro déchet, des transports 100% publics, des énergies renouvelables et le Wi-Fi gratuit. Donc, un programme globalement populaire qu'on pourrait imaginer à gauche, mais il n'en est absolument rien. Au Parlement européen, le gouvernement 5 étoiles s'est allié avec l'UKIP, un parti d'extrême droite particulièrement raciste et xénophobe britannique. Sur les questions migratoires, BP Grillo a plusieurs fois fait des sorties contre le droit du sol pour le durcissement des règles de droit d'asile et n'a pas hésité à défendre certaines initiatives de Casa Pound, un groupe ouvertement néofasciste italien ouvrant des squats sociaux réservés aux Italiens, ce qui n'est pas sans nous rappeler notre très cher bastion social lyonnais. Alors depuis sa création, le mouvement 5 étoiles n'a fait que progresser. Pour ces élections, donc 32%, 226 députés, 112 sénateurs. Aujourd'hui, il est représenté par Luigi Di Maio, sur des bases beaucoup plus conservatrices que Beppe Grillo. Et contrairement à ce que disent nombre de médias, ce parti est classable. Il n'est pas inclassable, ce n'est pas un ovni, comme disait encore Le Monde aujourd'hui, cet ovni du mouvement 5 étoiles, non. C'est un parti rouge-brun qui reprend certains arguments de la gauche ou de l'extrême gauche sur des bases anticapitalistes, mais en fait, toujours réservé aux Italiens, et il est particulièrement raciste et xénophobe. Quant à la Ligue du Nord, et ben c'est tout simplement, donc c'est un parti qui est mené par Matteo Salvini, c'est un parti nationaliste d'obédience néofasciste qui est allié avec Marine Le Pen sur le plan européen et qui a pris son envol électoral il y a quelques semaines suite à l'attaque notamment de 6 Africains par un de ses militants donc de la Ligue du Nord. Alors Matteo Salvini a œuvré par stratégie électorale à la transformation de la ligne politique de la Ligue du Nord, qui était auparavant régionaliste et anti-italien du Sud. Donc il a été obligé de recentrer son discours contre les immigrés et plus contre les Italiens du Sud pour gagner des voix au Sud. Donc ces deux partis dirigés par donc Salvini et Di Maio ont décidé, pour réussir leur alliance, de ne présenter aucun des deux chefs de file comme président du conseil. C'était une des conditions sine qua non. Par contre, selon la presse italienne, Salvini, donc le chef de la Ligue du Nord, un parti néofasciste, serait ministre de l'Intérieur en Italie, et Di Maio, donc le chef du mouvement 5 étoiles, serait le chef du grand ministère du développement économique, incluant le travail. Pour le poste de chef de gouvernement, ça oscille entre trois personnes, on va le savoir tout à l'heure, plutôt des inconnus, mais évidemment tous plus ou moins d'extrême droite, surtout plus que moins. Alors le programme affiché, je terminerai là-dessus, c'est la fin de l'austérité et la fin du diktat de Bruxelles, la plus grande fermeté contre la corruption et toutes les formes de délinquance et d'immigration. Il prévoit notamment d'abaisser l'âge de la retraite, de diminuer les impôts drastiquement, l'instauration d'un revenu de citoyenneté de 780 euros par mois, d'un salaire minimum. Donc tout ça, des réformes très populaires et en parallèle, un tour de vis sécuritaire affiché anti-immigration et anti-islam, c'est aussi très clair. Alors pour la petite blague, il y a également l'interdiction faite aux francs-maçons de faire partie du gouvernement, ça c'est le côté anticorruption, et donc une grande victoire pour nos camarades du Val de Suze, la fin du projet Lyon-Turin. LGV.
Bravo, bravo.
Merci à l'extrême droite. Alors, Bruno Le Maire a fait une sympathique sortie. Hein. Les engagements pris par l'Italie valent quel que soit le gouvernement. Donc, en gros, vous avez beau avoir voté pour ces deux partis-là en majorité, les décisions qu'ils prendront ne marcheront pas car il y a Bruxelles. Évidemment, la réponse a été immédiate de Salvini et Di Maio. Hein. Encore une invasion de terrain inacceptable. Les Italiens d'abord. Et pour terminer, et ça fera une transition avec ce dont on parlera tout à l'heure, parlons plutôt de Vintimille et des migrants arrêtés à la frontière par la police française en provenance de l'Italie. Voilà, donc bon courage pour nos camarades italiens. Si ce gouvernement effectivement s'installe pendant plusieurs années au pouvoir, ça va être super gore.
Oui, et du coup, un peu à cheval sur l'actualité internationale et nationale, la chasse aux migrants tue toujours. Donc on le sait, la situation est particulièrement tendue depuis quelques semaines du côté de Briançon, et les keufs comme les FAF ne cessent d'intensifier la traque des exilés comme de leur soutien. Alors la police organise de véritables guet-apens pour surprendre les aspirants réfugiés dans leur difficile traversée nocturne. Du coup, pour éviter ces contrôles, les exilés sont acculés à emprunter les chemins les plus dangereux. C'est dans ce contexte que le 9 mai, le cadavre d'une jeune femme nigériane a été retrouvé dans la Durance. Elle avait dû fuir dans la nuit du 6 au 7 mai, traquée, acculée par les lampes aux aguets de la police. Alors, ils étaient une dizaine ce soir-là à tenter de la traverser. La jeune femme a rapidement éprouvé des difficultés à suivre ses compagnons et donc deux d'entre eux lui ont proposé de l'accompagner pour ne pas la laisser seule. Détachés du groupe, ils sont rapidement tombés sur une patrouille de 5 flics qui les a surpris en surgissant de derrière des arbres. Alors, il y a un des exilés qui a réussi à se cacher, puis ensuite à fuir. Le second a rapidement été interpellé et la jeune femme restait quant à elle introuvable jusqu'à la découverte de son corps sans vie le 9 mai. Alors, corps que la police a refusé de laisser voir à la sœur de la victime et qui refuse d'ailleurs toujours aujourd'hui. Les identifications étaient faites sur photographie. Et ce vendredi, c'est un deuxième corps d'un jeune homme exilé qui a été retrouvé dans un bois situé sur la commune de Montgenèvre, tout près de la frontière encore. Alors, cette route, elle est souvent effectuée de nuit et elle est vraiment particulièrement dangereuse, notamment parce qu'il y a des précipices, qu'elle est particulièrement caillouteuse, donc on trébuche facilement. La plupart du temps, les exilés sont sous-équipés, ce qui rend la traversée beaucoup plus difficile. Et ils sont acculés par des contrôles absolument systématiques à prendre les chemins les plus dangereux et les plus périlleux. Oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, depuis quelques semaines, la traque, elle s'est intensifiée. Et c'est notamment à la suite de l'opération de génération identitaire, l'opération Defend Europe. Donc ces petits FAF d'école de commerce assurent toujours depuis leur opération de fin avril une présence constante à Briançon. Ils sont toujours au moins une dizaine à harceler, à traquer les exilés et également leur soutien, dont ils ont livré récemment des photos. Donc là ils disent qu'ils sont dans la troisième phase de leur opération Defend Europe, qui est la phase d'enquête. Donc ils prennent en photo les personnes solidaires quand elles sont accompagnées d'exilés et elles apportent l'ensemble de ces preuves à la police.
Maréchal Pétain, nous voilà.
Ouais, c'est vigile. Hein.
Et bah, les copains sur place sont peu nombreux, ils sont épuisés par cette situation qui est absolument insoutenable. Hein. Apparemment, les FAF passent leur temps à parader sans aucun complexe. Ils appellent d'ailleurs tous ceux qui ont du temps et de l'énergie à les rejoindre. Voilà, plus que jamais, les frontières tuent, mais pas qu'à Briançon. Comme je disais, c'est un sujet un peu à cheval sur l'international et le national, puisque jeudi 10 mai également, une enfant kurde était abattue par la police belge alors qu'elle se trouvait dans une camionnette avec d'autres exilés. Donc la police belge a fait feu et tué l'enfant d'une balle en pleine tête. Donc comme souvent, le parquet a tenté de maquiller cet assassinat en affirmant dans un premier temps que la petite fille n'était pas décédée d'une blessure par balle, ce que l'autopsie du corps de l'enfant est bien sûr venue infirmer. Donc voilà, chaque année, des milliers d'exilés perdent la vie en Méditerranée. Ici comme ailleurs, on se doit de refuser le silence que les coupables de ces assassinats nous imposent. Ces morts ne sont pas des accidents, elles sont le résultat d'une politique de plus en plus répressive et xénophobe en matière de droits des étrangers, mais aussi de l'accroissement exponentielle de la militarisation des frontières. Pardon. Les responsables sont tout autant les flics, les milices fascistes de génération identitaire, les préfectures de police, les parquets et bien sûr les gouvernements qui pensent et mettent en place ces politiques, et Gérard Collomb à la tête de cette coalition meurtrière.
Et donc, il n'y a pas le sujet sur... non, si, j'y vais.
Si, vas-y.
Plutôt moi. Allez, d'accord. J'étais pas prêt, mais ça va le faire, ça va le faire. Alors, allons sur notamment les cheminots. Les cheminots de Gare du Nord, Paris-Gare du Nord, qui sont quand même très glorieux. Ils haussent le ton, ils continuent à hausser le ton. Alors, la plupart considèrent que les modalités de grève décidées par l'intersyndicale à la SNCF, c'est-à-dire 2 jours de grève sur 5 jours, cette grève perlée, mène à la défaite et qu'il faut passer à la grève reconductible. Et que le verrou, il a un nom, il s'appelle la CGT. Sachant qu'en parallèle, la direction de la SNCF a décidé de payer en heures supplémentaires les cadres qui remplaceront les grévistes. Donc c'est une sorte de primo jaune, de primo briseur de grève. Donc ça s'organise toujours du côté de la SNCF pour briser la grève. Alors on revient sur la CGT, elle est aussi critiquée vis-à-vis de son initiative de prendre du temps et des forces pour organiser un référendum pour ou contre la réforme. Voilà, il considère que, beaucoup de cheminots considèrent que c'est un coup d'épée dans l'eau. L'argument, eh bien, 90% des cheminots, 90% des cheminots ont au moins fait grève une journée depuis le début du mouvement. Donc 9 cheminots sur 10 ont déjà fait grève, donc sont donc opposés à cette réforme. Alors pourquoi l'intersyndicale, c'est la question qu'il pose, ne fait pas de référendum sur les modalités de la grève? Peut-être car elle a peur de la réponse, c'est possible. Donc ces cheminots considèrent qu'il faut dépasser ce blocage de l'intersyndicale et notamment de la CGT et que les cheminots doivent prendre en main le mouvement via les assemblées générales. C'est ce qui se passe à Paris puisque la rencontre intergare de grévistes a décidé de rajouter la journée de demain, qui est une journée de grève des fonctionnaires, pour en faire une journée de grève et de mobilisation des cheminots, alors que les fameux 2-5 hein, tombent plutôt le 23 et 24 mai. Et cette assemblée intergare a lancé un appel national à faire grève demain, et seul Sudrail appelle à la grève demain d'ailleurs, ce qui prouve bien que la CGT notamment, et Force Ouvrière entre autres, sont opposés à la généralisation du conflit. Ils ont également appelé une rencontre nationale demain à Paris avec des délégations de province, notamment de l'Est, puisque ça se mobilise et ça se radicalise à l'Est, à Mulhouse et à Strasbourg, hein, puisqu'ils ont eux aussi organisé des assemblées générales intergares pour développer la mobilisation. Quant à Gare du Nord, ils ont voté en AG une grève reconductible du 22 au 29 mai. Ils la nomment Semaine Noire et ils ont été rejoints sur ce vote par une partie des cheminots de la SNCF. Alors, on continue sur les cheminots et leur mobilisation, puisqu'ils font pas mal d'actions en dehors des gares, ils ont bien raison. Ils ont notamment rejoindre l'occupation d'un McDonald's, puisqu'il y a un certain nombre de McDo qui sont mobilisés, voire en grève, et pour certains occupés. C'est une grève qui est partie de Marseille. Et donc, il y a quelques jours, les cheminots, les étudiants, des postiers et des chauffeurs-livreurs à moto ont rejoint l'occupation du McDo de Boulevard Magenta, occupé par 37 employés et recouvert par des banderoles CGT et Sud. Et je vous cite un petit slogan plutôt pas mal, frites par frites, nuggets par nuggets, nous reprendrons le fric du McDo. Voilà, alors à Lille, il y a 3 jours, les cheminots en grève ont à... Moi, je l'ai trouvé super drôle. Ouais, bah, c'est pas mal, ça va. Bon, à Lille, il y a 3 jours, les cheminots en grève à 120. Ils ont retardé le départ des TER et des TGV Lille-Flandre entre 5h et 9h du mat. Et en fin de matinée, ils sont tranquillement allés à la direction d'Or à Lille. Ils ont fait une opération caisse gratuite à Carrefour, avec une intervention des CRS, évidemment. À Paris, le siège de la SNCF a été envahi par une centaine de cheminots. Il y a également eu des actions à Cannes. Voilà, je vous passe les détails. Les cheminots durcissent le mouvement, en tout cas dans un certain nombre de villes, et on espère les voir massivement demain dans les manifs.
On va continuer au national avec un sujet dont vous parlez déjà la semaine dernière. Il s'agit de la polémique autour de Mariam Pouchetou, qui est la présidente de la section Paris 4 de l'UNEF. Pour résumer rapidement ce qu'on avait déjà dit la semaine dernière, elle a été interviewée par M6 il y a maintenant 2 semaines, et suite à la diffusion de l'interview, de nombreuses critiques se sont élevées. Non pas sur le contenu de son discours, mais sur son voile, car Mariam Pouchetou porte le voile. Tour à tour, ce sont entre autres l'essayiste Céline Pina, le professeur de théorie politique Laurent Bouvet, ou encore l'un des fondateurs de l'UNEF-ID et aussi de SOS Racisme, Julien Drey, qui se sont fendus de leurs commentaires.
Salaud.
Allant de, je cite, « cette jeune dame souille tout notre combat » à...
Alors que Julien Drey, lui, ne souille aucun
rien
combat.
Rien du tout.
Ça, c'est vraiment...
Oui, oui, oui.
Non, rien souillé du tout. L'antiracisme, il ne l'a pas souillé du tout, par exemple.
Et ça va jusqu'à, pour Céline Pina, l'infiltration du syndicat par les frères musulmans. C'était aussi une citation.
Ah bah bravo. Rien que ça, tranquille.
Et depuis, ça continue. Mercredi dernier, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes a déclaré, voire dans la personne de... Alors j'ai marqué de Marlène Schiappa, mais en fait non, c'est elle, Marlène Schiappa. Elle a déclaré, voire dans la personne de Mariam Pouchetou, une forme de promotion de l'islam politique. Et alors que l'UNEF est censé être un syndicat étudiant progressiste et féministe. Elle affirme donc par là que pour être... Exactement. Mais ce qu'elle affirme surtout par là, c'est que pour être progressiste et féministe, il faut choisir ses porte-paroles en discriminant leurs choix religieux et vestimentaires. Et donc, que la liberté d'une femme à porter ce qu'elle décide de porter est limitée à son anonymat. Vendredi dernier, c'est même Gérard Collomb, lui-même, puisqu'il est sur tous les fronts, qui s'est exprimé sur BFM TV et qui a assimilé le choix de Mariam Pouchetou à du prosélytisme. Ainsi que, et je le cite, « On voit bien qu'il y a un certain nombre de gens qui, au travers de ces signes, sont dans la provocation. On se demande qui provoque qui. Après les réactions de ces deux membres du gouvernement, Mariam Pouchetou a fini par devoir répondre à ce flot d'accusations. Tout en regrettant de devoir justifier son choix, elle précise que son voile n'a aucune fonction politique et qu'on lui donne une signification qu'elle-même ne lui donne pas. » Alors là, je peux vous préciser qu'il est vrai que jusqu'en 2013, l'UNEF se positionnait encore contre le voile à l'université. Mais finalement, ce qu'on peut quand même vraiment rappeler, c'est que l'interview à l'origine de la polémique avait pour sujet les mobilisations étudiantes contre la sélection à l'université. Et que cet énième faux débat sur la compatibilité du voile, de la laïcité et du féminisme permet habilement de détourner l'attention de la contestation étudiante.
Alors que la vraie question est pourquoi est-elle à l'UNEF ? Là-dessus, on est en droit de lui demander des justifications.
C'est vrai.
Et toujours est-il que la contestation étudiante continue et continue parce que tous les examens s'annulent plus ou moins en France. Il n'y a pas longtemps, à Nantes, les étudiants se sont levés pour pouvoir dire « bah non, c'est pas possible, on est contre cette loi ORE et on ne veut plus, on ne veut pas passer les examens ». Ça s'est passé à Lyon 2 aussi, ça s'est passé à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, ce qui est plutôt un exploit parce que c'est plutôt une fac à droite avec 3000 enseignants qui sont plutôt portés à droite. Bref, aujourd'hui a été dévoilé l'algorithme de Parcoursup, l'algorithme national de Parcoursup, parce que l'algorithme local, hein, celui qui va être utilisé par les universités, lui ne sera pas dévoilé. Le Sénat, lui, avait pourtant demandé la suppression de ce secret autour de l'algorithme local, mais c'est l'Assemblée nationale qui est passée outre et qui en a décidé autrement. En gros, les universités, elles ne sont pas tenues de dévoiler leurs algorithmes locaux qui classeront les étudiants selon leurs profits et les attendus de la formation. Ils ne sont pas non plus obligés de dévoiler ce qui se passe dans les commissions si un étudiant demande à savoir pourquoi il n'a pas été pris. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que en fait, il n'y a pas si longtemps, il y a environ 3 semaines, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui assurait que tout le monde aurait une place en fait dans une filière, a finalement dit qu'en septembre, peut-être, il y aurait des laissés sur le carreau. Alors, c'est pas vraiment des laissés sur le carreau, c'est des en attente. En attente d'une décision qui pourrait être prise dans une université pour savoir s'ils auront une place ou non, ou dans une grande école. Alors, juste pour vous faire le topo, en gros, vous décidez, vous avez 3 choix. Vous avez l'école de commerce en premier choix, hein, bien évidemment, vu que tout le monde veut faire ça aujourd'hui. Vous avez fac d'éco en second choix et fac de psycho en troisième choix, en vous disant peut-être aller chercher les raisons psychologiques de pourquoi l'économie marche comme ça serait peut-être intéressant. Mais bref, toujours est-il que si vous choisissez donc l'école de commerce au début, que vous êtes en attente et qu'on vous propose derrière le choix de la fac d'éco, qui elle est un peu sous tension, et qu'on vous propose après la fac de psycho, qui elle est complètement sous tension, mais que vous aimeriez faire quand même, et si on vous donne ces 2 choix, donc fac d'éco et fac de psycho en premier, vous avez 7 jours pour accepter. Si vous n'acceptez pas, en fait, vous ne serait pas placé. Et par contre, si l'école de commerce vient après, c'est-à-dire que si on vous alloue une place dans cette école de commerce, vous ne pourrez pas donc du coup la choisir faute de rester sur le carreau. En gros, c'est un peu à l'étudiant d'évaluer son auto-possibilité d'accéder à une filière ou non. Ce qui est problématique là-dedans, c'est qu'on est bien dans l'idéologie néolibérale, on veut trier, sélectionner, et à ce qui paraît, surtout à la Sorbonne, hein, dans les facs de droit et d'éco, c'est vraiment ce qui est demandé par les enseignants. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? La question qui se pose, c'est comment faire quand il n'y aura pas de commission ? Parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de professeurs qui se sont positionnés, de professeurs, enseignants, etc., pour ne pas classer, pour ne pas faire les admissions. Notamment à Lyon 2, il y a quand même plutôt quelques filières, donc pas les filières qui sont sous tension, genre psycho, sciences de l'éduc, etc., qui ont décidé de ne pas classer. Et il y aura quand même un classement qui va se faire, et ça sera à la présidence de le faire. Bref, tout ça arrive à point. En plus, mardi 22, donc qui est jour de mobilisation nationale pour les fonctionnaires, il y aura aussi l'université de Toulouse-Mirail qui va rouvrir ses portes. En gros, ils vont essayer de procéder à des sortes de réunions avec les étudiants, etc., pour faire tenir des examens entre le 11 et le 23 juin. Des examens qui seront donc soit délocalisés, comme on l'a vu dans certaines facs, soit qui seront, on va dire, dématérialisés sous forme de devoirs maison, comme on a pu le voir à Lyon 2 récemment. Et voilà, juste pour vous tenir au courant qu'à Lyon 2, en une semaine, certains étudiants avaient à rendre 5 devoirs maison pour obtenir une note et avoir leur année. C'est complètement inadmissible, c'est n'importe quoi. La présidente aurait pu à un moment donné prendre les devants et savoir qu'il n'y aurait pas d'examen et prévoir tout ça bien à l'avance.
Et en plus, au-delà de ces questions des DM, contrairement à ses engagements de tenir aucun examen, la présidence s'est permis de tenir quelques examens en SCRED, encore cette semaine, notamment en sciences de l'éduc, il me semble, doit y avoir des examens à Porte des Alpes. Donc en gros, Nathalie, on t'a grillé, attention à toi.
Mais il y a surtout des examens qui sont tenus par des professeurs qui les faisaient en dehors de l'université. C'est-à-dire que moi j'ai été au courant qu'il y avait des examens de chinois qui se sont tenus dans des bars. C'est complètement hallucinant en fait que ça puisse se passer comme ça, voilà.
Et tout de suite, on va enchaîner rapidement donc, sur un petit compte-rendu du rassemblement de jeudi dernier en soutien à Moussa Camara, donc, qui est un réfugié guinéen homosexuel menacé d'expulsion alors qu'en danger de mort dans son pays. Encore une victime donc, d'une politique migratoire criminelle qu'on connaît très bien aujourd'hui en France. Et en exclusivité, donc, nous sommes rendus
au
rassemblement. Canu, oui, au rassemblement, pour votre plaisir, chers auditeurs et auditrices.
On est arrivé en France en 2015 avec une autorisation de travail, mais il est aujourd'hui sans papier. Il a été débouté de sa demande d'asile en 2017. Frappé d'une obligation de quitter le territoire français par la préfecture, a tenté de l'expulser plusieurs fois vers la Guinée-Conakry, sans succès face à la détermination de Moussa de rester en France pour échapper à la mort. En effet, dans son pays, l'homosexualité peut lui faire encourir plusieurs années de prison, et même pire, le lynchage, comme celui dont a été victime son compagnon.
Donc on est ici parce que Moussa, qui est un militant de aide en fait, sur un autre lieu que Lyon, puisqu'il est de Nîmes, lors d'un contrôle de police, a été mis en centre de rétention. Il a été embarqué deux fois, enfin on a essayé de l'embarquer deux fois pour son pays, donc qui est la Guinée. Pour lui, c'est impossible de rentrer dans son pays parce qu'il risque la mort. Il a refusé d'embarquer, donc il a été arrêté jeudi il y a 15 jours et mis en détention pour l'instant à Corbas, en attendant qu'il soit jugé pour rébellion.
Nos organisations demandent l'abandon immédiat de toutes les poursuites judiciaires à son encontre, sa libération immédiate et le réexamen de sa demande d'asile.
Il doit passer le 12 juin en comparution devant le tribunal, justement pour refus d'embarquement. Donc ben on est là aujourd'hui pour manifester, demander que les autorités publiques fassent quelque chose. Comme on dit, Moussa, c'est le sommet de l'iceberg. Hein. C'est effectivement, son cas a été très médiatisé, en partie parce qu'il est bénévole pour aide. Par contre, des cas comme le sien, on est sur vraiment plusieurs centaines. Nous, de MSG, de toute façon, on a un discours qui est très très clair. On milite pour les personnes migrantes LGBT, mais on milite également pour toutes les personnes migrantes. La plupart des personnes concernées sont expulsées tranquillement, silencieusement, sans que personne ne soit au courant. Ça arrive tous les jours, hein, dans toute la France.
Ni détention, régularisation, ni expulsion, ni détention, régularisation, ni expulsion, ni détention, régularisation.
Pendant ce temps, le centre LGBTI de Lyon a eu la riche idée d'inviter des représentants de la préfecture et de la mairie pour l'inauguration de leur nouvelle bibliothèque. Une nouvelle assez mal accueillie, notamment par deux MSG qui soutient les migrants LGBTQI+.
C'est la soirée organisée dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, donc l'IDAOT. Leur idée était d'inaugurer l'ouverture de la bibliothèque du centre. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu véritablement de concertation. Le bureau du centre a lancé des invitations à la mairie centrale et à la préfecture qui ont répondu favorablement. Et donc, en fait, là, il y a une soirée mondaine au centre avec des représentants des deux institutions précitées qui, pour moi, effectivement, posent problème dans le sens où il n'y a absolument aucun respect pour le travail de notre association, notamment le fait que les deux institutions, que ce soit la mairie centrale ou la préfecture, ont hélas un énorme rôle à jouer dans la situation des personnes migrantes aujourd'hui, qu'elles soient LGBT ou non, hein, à Lyon.
Moussa expulsé. Alors, pour poursuivre sur l'attitude plus qu'ambiguë du centre LGBTI, des copines du collectif des Méduses se sont invitées donc jeudi soir à cette inauguration à la suite du rassemblement. Alors, inauguration, rappelons-le, à laquelle étaient conviés des représentants de la préfecture et de la mairie. Et l'entrée du lieu a, dans un premier temps, été refusée aux copines. Une partie du bureau du centre LGBTI semble donc plus encline à accueillir celles et ceux qui participent chaque jour aux politiques xénophobes de traque et d'expulsion du gouvernement plutôt que les copines, probablement jugées trop radicales. Alors rappelons que le 17 mai aussi la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie et que le centre LGBTI appelait au rassemblement en soutien à Moussa. Mais il semble que les intérêts que défendent un certain nombre de ses membres ne soient pas tout à fait les nôtres, ni celles d'ailleurs de tous les dominés des exploités. On salue les prises de position publiques de certains membres, même du bureau du centre LGBTI, qui ont permis aux Méduses de finalement rentrer et aujourd'hui d'avoir des échos de cette triste histoire.
Et rapidement, par rapport au rassemblement, si vous souhaitez, enfin vous avez en vous le désir de soutenir Moussa, vous pouvez...
Waouh !
Oui, merci.
Il faut vraiment le vouloir.
Oui, il faut vraiment le vouloir, oui. Parce que c'est très chiant, mais vous pouvez toujours lui envoyer un mot, des colis ou je ne sais quoi, donc en prison à Corba. Donc pour ça, vous pouvez écrire à la prison de Corba, donc c'est l'adresse, je vous invite à la regarder sur internet, et il faut l'envoyer au numéro d'écrou 26014.
Alors, on va partir sur un autre champ et on va revenir sur une conférence de presse qui a eu lieu là en fin de semaine dernière sur les questions du logement notamment et ce qui se passe en fait dans le Rhône où les critères en fait ont une fois de plus été revus à la baisse par la préfecture du Rhône qui maintenant considère qu'un enfant, en fait qu'une famille avec enfant, il faut que l'enfant ait moins de 1 an pour en fait rentrer dans les plans de logement pour l'été et que sinon il est totalement normal qu'il
soit remis. Après, c'est une balle dans la tête.
À 18 mois, c'est une balle dans la tête en Belgique, donc bon, voilà.
Oh putain, on en parle là-dessus, moi, après. Okay.
Tu te débrouilles.
Allez.
Ok, donc on va essayer de faire ça assez rapidement, mais bon, on va essayer de rappeler que depuis en fait le plan Grand Froid qui se termine le 31 mars tous les ans, un certain nombre de places sont tous les ans promises pour être pérennisées pendant l'été, que à chaque fois les autorités publiques nous baladent en fait tous les associatifs dans un flou absolu, et que un certain nombre de personnes en fait ont déjà été remis à la rue, notamment un grand nombre de familles sur des critères à chaque fois qui évoluent. Donc dans les 600 personnes qui restent encore dans le cadre du plan Grand Froid, de nouveaux critères sont apparus pour savoir ceux qui vont pouvoir rester et d'autres qui vont devoir partir. Ainsi, sur ces 600, si ces sans-abri disposent d'un statut administratif qui leur permet d'intégrer le logement social, ils pourront intégrer un nouveau dispositif d'insertion et leur logement sera garanti. Donc cela concerne notamment les ressortissants communautaires. Et pour les personnes en situation irrégulière ou en demande d'asile, il faut avoir un enfant, donc là, ce que je disais, de moins de 1 an, ou être une femme enceinte de plus de 6 mois, donc avant vous n'avez pas le droit, et ou être gravement malade. Donc en fait, ça veut dire qu'au moins dans 250 personnes qui étaient encore suivies par la préfecture vont être remises à la rue. Donc le collectif Jamais Sans Toi dénonce donc des critères de sélection drastiques, absurdes et inhumains. Une première hiérarchisation est faite selon la nationalité et ou la situation administrative des personnes, puis ce sont les critères de vulnérabilité qui rentrent en compte. Cette année, la préfecture estime que seules les femmes enceintes de moins de 6 mois et les enfants de plus d'un an ont le droit de vivre dans la rue.
Ce qui a à cette rage à voir, c'est justement en fait que cette politique est entièrement basée sur la politique du chiffre et que en fonction des moyens, en fait, on adapte le nombre de personnes qui auront le droit au lieu d'adapter les moyens en fonction de la situation des gens à la rue. De fait, pendant l'hiver, en fait, ces critères ont été révisés plusieurs fois par la préfecture, passant dans des familles avec des enfants de moins de 3 ans et des familles en général aux nouveaux critères qu'on a cités plus avant. Donc une fois de plus, la Jamais sans toi met en avant la contradiction avec la loi sur le droit opposable au logement, censé garantir l'inconditionnalité et la continuité du logement. Le collectif a argumenté dans ce sens auprès de la direction départementale de la cohésion sociale, mais la réponse est toujours la même. Le droit inconditionnel, c'est du passé. Désormais, l'État est une obligation de moyens et non de résultats, selon la jurisprudence actuelle du Conseil d'État.
Oui, comme l'État fait pas du tout son boulot, il y a un certain nombre de mineurs isolés qui aujourd'hui sont pris en charge par des étudiants qui ont réhabilité un squat déjà vidé, on va dire, qui s'appelle La Cabane. Et ce samedi, c'était la crémaillère de ce lieu. Du coup, comme nos reporters ont été particulièrement efficaces ce week-end, on a un autre reportage autour de ce lieu qu'on écoute tout de suite.
Aujourd'hui, petite plongée dans un lieu haut en couleur de l'agglomération lyonnaise. Des murs décorés de multiples dessins, peintures et autres œuvres d'art, et une ambiance joyeuse et conviviale. Bienvenue dans le squat La Cabane. Ce squat, ouvert depuis quelques semaines sur les ruines d'un autre squat, est un lieu d'hébergement des mineurs étrangers abandonnés ou rejetés par les pouvoirs publics. Face aux politiques racistes et xénophobes de l'État, plusieurs étudiantes et étudiants s'engagent au quotidien avec les habitants de La Cabane, les aidant dans leurs démarches administratives et organisant la lutte autour des enjeux propres aux mineurs étrangers. Aujourd'hui, La Cabane compte près de 50 habitants. Visite des lieux avec l'un d'entre eux.
Bon, ici c'est le rentrée principale et là-bas ça c'est le salon. C'est là-bas qu'on mange à chaque soir parce qu'on prépare à 19h et à 21h30 on commence maintenant à partager des repas ici au salon. Nous sommes comme ça dans une pièce qui est réservée pour les étudiants qui dorment ici dans la nuit. Tu vois, ici aussi, c'est les salles de bain et les toilettes. Il y en a une seule salle de bain et deux toilettes qui fonctionnent.
Et pour l'entretien, justement, des toilettes, de la salle de bain, etc., comment vous organisez aussi pour la cuisine?
Bon, pour l'entretien, pour la salle de bain, on fait chaque chambre. Chaque jour, il y a une chambre qui va nettoyer la salle de bain et les toilettes et qui vont préparer aussi.
Donc ici, on arrive dans les différentes chambres.
Oui. Bon, ici, on a numéroté les chambres, les noms sur les chambres, tu vois. Ici, il y a 7 personnes qui dorment ici. C'est la chambre océan. Et ici aussi, il y a une autre chambre qu'on appelle chambre forêt. Et ici, on a une autre chambre qui appelle la chambre brouche. La quatrième chambre, c'est chambre île. Ici, c'est la cuisine. On prépare ici tous les soirs. Aujourd'hui, il y a une chambre qui va préparer. Le lendemain, une autre chambre. C'est comme ça. Bon, ici, c'est le placard. Là, on dépose les manger, les bouffes. C'est ça. Et ici aussi, il y a des draps. Ceux qui n'ont pas de draps, ils peuvent prendre des couvertures pour se couvrir. Bon, des draps, c'est des dons. Et aussi, les manger, c'est des dons. C'est des associations qui nous amènent des manger. Mais avant, c'est nous-mêmes qui faisions des rééquipes avec des étudiantes. Mais en ce moment, il y a des associations qui viennent au secours, quoi. Ils nous aident, ils nous donnent des bouffes.
Par contre, tu peux nous ramener là, parce que...
Oui,
tout de suite, je
renverse. Il n'a rien vu en bas.
Pour faire court, la problématique des mineurs, c'est principalement au niveau de l'hébergement qui n'est pas fait par l'État. Parce que normalement, chaque mineur doit être mis à l'abri par l'aide à l'enfance. Sauf qu'actuellement, à Lyon, ce n'est pas fait. Et après, c'est aussi au niveau du suivi. Une fois qu'ils sont acceptés, ils sont souvent mis à l'hôtel sans aucun accompagnement, ni suivi médical, ou alors qui est très complexe.
J'ai 17 ans. Je suis arrivé le dimanche 6 mai.
Et comment t'es arrivé ici? Comment t'es retrouvé ici?
Bon, j'étais à la gare Pardieu. En fait, je ne connaissais personne ici. Je suis arrivé, j'étais dans le train, ils ne savaient même pas où je partais. Et quand je suis arrivé à la gare, je me suis dit, quelque chose m'a dit, bon, pourquoi pas rester ici? Mais je ne connaissais personne ici. Et donc, je suis descendu du train, j'étais à la gare, j'ai tourné à la gare. Et c'est dans ça, je parlais avec les Noirs que je voyais. Je parlais avec eux et c'est dans ça que j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit d'aller à la police. D'aller à la police, expliquer. Je suis allé, je me suis renseigné où je pouvais trouver un coin où la police se trouvait. Et ils m'ont montré, c'était on dit le centre commercial. Le centre commercial.
De la Pardieu, c'est ça?
C'est derrière la gare. Oui. Je suis allé là-bas, je me suis renseigné, ils m'ont montré le coin. Et c'est là que j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit que qui m'a demandé mon âge. Il a dit mon âge. Il m'a dit bon, il faut chercher le coin où on peut garder les mineurs. Et c'est dans ça que je me suis retrouvé ici.
Et du coup, Sarah, tu t'ennuies pas trop des fois dans la journée?
Bon, je m'ennuie pas pour le moment, puisque toujours il y a quelque chose à faire. Si tu veux faire quelque chose en tout cas, tu auras quelque chose à faire.
Comment tu peux te tenir? Déjà, moi, que tu commences avec une case, c'est beaucoup trop difficile.
Moi, je devais pas y avoir. Il
faut commencer avec une lame de pin. La 1, c'est mieux.
Ah, bah attends, tu es une lame.
Donc, est-ce que tu peux me reparler de ce projet artistique?
Donc, l'idée, c'est de. D'amener tous les jeunes à graver des petites maisons, des cases ou n'importe quoi qui leur fait penser à l'idée de maison, pour après tendre un grand drap blanc et imprimer toutes ces petites maisons qui ont sur des petits formats pour composer tout un village de maisons et qui grandirait au fur et à mesure que les jeunes arriveraient.
Ah, est-ce que tu veux me dire ce que vous êtes en train de faire là?
Je suis en train de faire construire une maison là.
Bonjour Rodino.
Bonjour.
T'as bien dormi?
Oui.
Fallait que je te parle.
Hmm?
Alors, tu vois dans l'endroit où on coiffe les cheveux là, en bas, on coupe les cheveux, il y a un frigo comme celui qui est derrière. Et dedans, il y a de la viande pour ceux qui mangent du porc. D'accord? Il y a des hamburgers, il y a plein de trucs que vous pouvez manger. D'accord? Parce que c'est pas parce que les autres font le ramadan que vous, vous pouvez pas manger. Ok?
Bon, j'ai 17 ans, plus 2 mois. Et bientôt, j'aurai 17 ans, 3 mois.
Et t'es ici à la cabane depuis combien de temps?
Bon, ici à la cabane, ça vaut maintenant un mois.
Et du coup, tu te sens comment dans ce lieu?
Bon, pour le moment, je me sens bien. Sinon, le début, c'était pas du tout facile. Parce qu'on était nombreux dans la chambre, on était à peu près 11 personnes. Mais pour le moment, on est maintenant 7 personnes dans la chambre. Et du coup, il y a la solidarité quand même.
Comment tu fonctionnes au quotidien ici, toi, le matin? Qu'est-ce que tu vas faire dans la journée, etc.? Comment tu t'occupes?
Bon, le matin, lundi, j'ai un cours de maths ici. C'est Estelle qui nous donne des cours de maths, des étudiants. Mais c'est pas tous les jours, quoi. Certains jours aussi, ici, j'ai pas de cours. Je dois aller à la bibliothèque pour me réviser un peu, quoi, en fait.
Et du coup, tu es plutôt content d'avoir pu trouver un lieu comme ça. Enfin, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce lieu de la cabane?
Bon, je suis très content de trouver un lieu comme ça, parce que par rapport à ma situation, tu vois, donc si c'est pas facile, quoi, si c'était pas la cabane, on est obligé maintenant de dormir dehors. Mais grâce à des étudiants, ils nous ont aidé de trouver la cabane, donc j'aimerais bien ici, vivre ici. Et ils ont dit qu'ils n'ont pas sûr de mon acte de naissance parce que c'est marqué fille. Et pourtant, au lieu de fils, ils ont marqué fille.
Et là, du coup, pour le moment, tu es en attente d'avoir un nouvel acte de naissance ou de recevoir un nouvel acte de naissance ou...
Bon, du coup, ils ont rectifié, ils ont mis maintenant fils, ils ont envoyé ça en Guinée. Lundi ou mardi, je vais recevoir ça là.
Et du coup, qu'est-ce que tu en penses de la manière, enfin, comment tu l'as vécu, toi, la manière dont tu as traité la Méomi, etc., puis ces derniers mois
Bon, ça m'a déçu, mais comme c'est un coup de frappe, on peut dire ça là. Parce qu'au niveau du secrétariat, ils se sont trompés, ils ont mis maintenant fille. Et enfin, j'étais un peu énervé, mais je pense que c'est pas du tout facile. Mais avec courage, ça va aller quoi. Parce que je me débrouille pas mal, j'ai fait des activités quand même. Jusqu'à mon audience, parce que bientôt je dois faire l'entretien avec juste d'enfants.
Depuis plusieurs semaines, la situation des mineurs isolés dans l'agglomération a été complètement chamboulée. On pourrait même dire qu'elle s'est carrément dégradée. La MEOMI, le service de l'aide sociale à l'enfance s'occupant des mineurs étrangers dans la métropole, délaisse de plus en plus les mineurs dont elle a la responsabilité. Elle a désormais délégué son travail de mise à l'abri d'urgence et d'évaluation à Forum Réfugiés, une association sous contrat avec la préfecture. Les mineurs sont accueillis par l'association dans un foyer de 25 places pendant 5 jours, durant lesquels cette dernière évalue leur minorité. Près de la moitié sont rejetés chaque semaine selon ce qui, d'après les étudiants, sont des critères arbitraires, c'est-à-dire le nombre de places disponibles au moment où le jeune se présente. En tout cas, ce dont témoignent tous les mineurs et leur soutien, c'est du sentiment d'abandon et de solitude face au pouvoir public. L'attente. C'est elle qui structure la vie de ces jeunes, comme un moyen de les dresser, de les rabaisser. Attente d'un entretien, attente d'une prise en charge, attente d'un recours, attente d'un placement au foyer. Une attente qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois même. Ce traitement dégradant par la métropole et la préfecture finit parfois même par aboutir à des incidents.
Mais par exemple, là, il y a eu un collectif, le collectif AMI, qui a fait une conférence de presse sur pourquoi la MEOMI a fermé là tout récemment, en début mai. Et en fait, c'est un jeune qui a eu une entorse, enfin dans la jambe cassée. Et du coup, il a eu un plâtre. Du coup, il a été placé au foyer de l'IDF, qui s'occupe des moins de 15 ans et des filles normalement. Et sauf qu'ils ont plus d'accompagnement, du coup, ils l'ont mis là-bas pour le soigner. Et le jour où il devait enlever son plâtre, ils lui ont dit bah, tu retournes à la MEOMI et tu demandes ton hôtel, où est-ce que tu vas. Et sauf qu'en fait, il n'y a personne qui lui a indiqué, une fois arrivé à la MEOMI, d'où est-ce qu'il dormait. Il a attendu pendant plus de 2 heures. Et personne ne voulait l'accompagner à l'hôpital pour qu'il enlève son plâtre. Donc il est quand même allé à l'hôpital. Et une fois là-bas, ils lui ont dit que bah, c'était pas bon, qu'il fallait qu'il garde son plâtre. Du coup, ils l'en ont remis un nouveau. Sauf que son plâtre, il est retourné à la MEOMI après pour redemander son hôtel. Et ensuite ils l'ont juste foutu à la porte alors qu'il avait attendu toute la journée. Et après le soir il a dormi à la rue, il s'est fait agresser dans le parc. Il a été son autre jambe, elle a été fracturée. Et ce gamin, on s'occupe de lui, mais sinon avant ça il n'y a personne qui s'occupait de lui. Même son assistante sociale, personne ne voulait le recevoir. Et ben en fait, des gamins comme ça, il y en a plein parce que personne ne fait rien pour changer les choses.
Vous l'aurez donc compris, la prise en charge des mineurs dans l'agglomération est complètement défaillante. D'où l'existence de ce squat.
Ben en fait, on les recueille parce que il n'y a personne d'autre. Enfin, même Forum les refuse et ils les renvoient directement à nous maintenant. Ah oui, ils ont fait un petit plan pour les renvoyer vers chez nous. Ils leur expliquent comment venir ici.
Pour les auditeurs et auditrices, est-ce que tu y a des besoins particuliers? Est-ce que les gens peuvent apporter un coup de main si nécessaire pour le squat?
Oui, bien sûr. Alors il y a des besoins tout le long sur place. Donc après, au niveau matériel, on a toujours besoin d'un peu de nourriture, au niveau de même des draps, du matériel de bricolage, des choses comme ça. On cherche aussi beaucoup pour faire des activités aussi dans la semaine à proposer aux jeunes. Donc il y a déjà des cours de français qui sont un peu fixes, mais on a toujours besoin de matériel. C'est pareil pour le cours, il y a des activités peinture, des activités de dessin, des activités de musique aussi. Donc tout ça, on a toujours besoin de matériel. Mais après, c'est même rien qu'une présence la journée pour passer, pour dire bonjour, pour passer un bon moment avec les jeunes et montrer qu'ils ne sont pas non plus tout seuls dans l'endroit, mais qu'on est là avec eux pour les soutenir. On a en même temps qu'on voulait faire une sorte de journée porte ouverte crémaillère du lieu. On a donc invité des associations et on a aussi fait un petit tour du quartier au niveau des commerçants qui nous aident un petit peu aussi, la boulangerie qui nous donne les restes le soir et les quelques voisins autour qui sont passés aussi, quelques-uns nous soutenir, nous demander comment ça allait parce que ça c'est pas passé inaperçu que 40 jeunes sont arrivés dans la rue quoi. Nous notre but aussi c'est de montrer qu'on est là parce qu'on veut que les jeunes soient aidés et que leur situation s'arrange. Quoi.
Voilà, c'était notre reportage sur la cabane. Et si vous prend donc l'envie d'y passer ou de soutenir les habitants et les étudiants, donc c'est au 44... Enfin non, je dis non, c'est nulle part. Mais enfin, oui, vous savez bien où c'est, quoi. Vous en doutez.
Sur Rébellion, vous trouverez l'adresse sur en fait les différents chaque article qui ont été posés. Il y a une adresse mail à laquelle vous pourrez écrire pour avoir plus d'informations et sinon, ils ont lancé un appel aux dons. Il y a comme lieu, vous pouvez passer à la Griffe et au bar Les Clameurs et l'Amicale du Futur, qui sont les trois lieux à la Guillotière qui récupèrent des dons pour les mineurs. Donc n'hésitez pas à venir déposer tout ça là-bas. Et donc maintenant, vu qu'on arrive à la fin, bah on va...